Chapitre 19. Une fois la décision prise de m'emmener avec lui sur les routes, Everett s'est entièrement consacré aux préparatifs. Il avait pris le nom de mon père, et moi je devais m'appeler Molly. Il m'a bourré le crâne, mon nom, son nom, et obligé à signer une deuxième carte postale pour ma mère. J'ai écrit sous sa dictée, signé ce qu'il voulait. Je trouvais mon écriture bizarre, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Peut-être que l'écriture des filles qui s'appelaient Molly ressemble à cela. Quand j'ai eu fini, le faux Everett m'a donné un jean tout raide et un t-shirt blanc trop grand qui proclamait Florida de Sunshine State. Il avait aussi prévu une culotte et un soutien-gorge. Mais ce dernier était trop grand de plusieurs tailles et ressemblait à un truc que seule une grand-mère pourrait porter. Lorsque je lui ai montré d'un air interrogatif, il s'est contenté de hausser les épaules et de l'envoyer par terre. Il m'a ordonné de prendre une douche. Parce que nous allions vivre dans un espace réduit, m'a-t-il expliqué. J'ai noté que lui aussi venait de se laver. Il avait été jusqu'à se passer un peigne dans les cheveux et il portait un de ses t-shirts les moins tachés. Il m'a regardé dans la salle de bain pendant que je savonnais rapidement ma peau incrustée de crasse, que je frottais mes longs cheveux emmêlés. Et il a continué à me mater pendant que je prenais maladroitement les vêtements bas de gamme trop grands et que je faisais de mon mieux pour les enfiler sur ma peau encore humide. J'avais les mains qui tremblaient. Je ne quittais pas la moquette marron des yeux, certaine que d'un instant à l'autre, il allait m'arracher les vêtements des mains, me jeter par terre et... Mais non. Tout au plus avait-il l'air irrité que je sois si empotée. Quand j'ai fini par passer le t-shirt sur mes cheveux dégoulinants, il a sorti un peigne de sa poche arrière et l'a passé lui-même, sans ménagement, dans ma tignasse. De sa poche, il a ensuite sorti une paire de ciseaux. J'ai frémi. Ça l'a fait marrer. « C'est le bordel, tes cheveux », a-t-il déclaré. Un début de conversation. J'aurais eu envie de lui répondre. Évidemment que c'est le bordel. On ne lave pas des cheveux, et encore moins de fins cheveux blonds comme les miens, avec un vieux pain de savon à main tout craquelé. Mes boucles étaient habituées à des soins apaisants, à base de shampoing à l'huile de théier et d'après-shampoing parfumé aux agrumes. Sans oublier le masque nourrissant hebdomadaire pour donner du volume et le balayage mensuel pour la brillance. Autrefois, j'étais une adolescente, avec certaines exigences, et de magnifiques et longs cheveux soyeux à la californienne. Tandis que maintenant, j'ai gardé les yeux baissés vers mon nouveau jean, tout raide sur moi. Il a attrapé la première touffe et s'est lâché. Trois coups de ciseaux, c'est tout ce qu'il a fallu. Trois énormes poignées et les mèches humides sont tombées en pluie sur la moquette.
Merde! Je crois bien que c'est encore pire. Tant pis, les bonnets ne sont pas faits pour les chiens.
Je n'ai rien dit. D'un claquement de doigts, j'étais devenue Molly. Et nous le savions tous les deux. Mais nous n'en avions pas encore fini. Il m'a obligée à me retourner. Il m'a bandé les yeux avec un morceau de tissu noir qui sentait le vieux t-shirt moisi, et il l'a noué derrière ma tête pour m'aveugler. Je ne me suis pas vue quitter ma prison souterraine. Au mieux, je pouvais entrevoir le dessus de mes pieds nus sur la moquette. Il m'a tiré vers la porte. Un grincement, et ensuite, comme je l'avais deviné, des escaliers qui montaient. Il m'a poussé devant lui. J'ai trébuché une fois, deux fois, trois fois. Il m'a filé une claque derrière la tête, assez forte pour que je grimace, et j'ai retrouvé mon équilibre. En haut, bref arrêt, le temps qu'il ouvre une autre porte en passant son bras devant moi. Au sol, le revêtement a changé. Nous sommes passés d'une vilaine moquette bas de gamme à un lino gris qui se décollait. Est-ce qu'on était chez lui? Je me suis posé la question pendant qu'il me tirait brutalement pour traverser ce qui, me semblait-il, devait être une cuisine. Comme tout ce qui avait un rapport avec lui, elle puait. Je me suis de nouveau emmêlé les pieds. Est-ce que j'essayais de le ralentir? Ou est-ce que j'avais vraiment un problème de coordination? Je ne savais plus. J'avais accepté ma nouvelle identité. J'avais donné le nom de mon père pour ne pas être abandonnée à mon triste sort dans cet horrible endroit. Et pourtant, c'est drôle comme on peut craindre le changement, même quand on est déjà au fond du gouffre. De l'air frais.
d'un seul coup sur ma peau. Nous avions traversé la cuisine, franchi une autre porte et nous étions sortis de la maison. Vers l'extérieur. Un jardin à l'avant ou à l'arrière de la maison? Comment le savoir? Et quelle importance? J'étais dehors, avec la sensation du vent sur mes joues. Alors, pendant quelques secondes, ça a été plus fort que moi. J'ai refusé d'avancer et j'ai levé mon visage vers le ciel. L'extérieur, de l'air frais, le bruissement des arbres. Après si longtemps, combien de temps? Trop longtemps. Le faux Everett s'est arrêté. Il m'a accordé ce moment. J'en ai profité pour regarder en l'air, par-dessus mon bandeau, et j'ai vu les grands arbres dressés autour de moi. Dense et sombre dans un ciel à peine éclairé. Des bois, une forêt, la liberté. Peut-être n'étais-je réellement qu'à quelques kilomètres de la ferme de ma mère. La Géorgie, m'a dit Everett comme s'il lisait dans mes pensées. Je me suis dégoté cet endroit il y a des années. C'était ma petite cabane au fond des bois. Bien sûr, le vieux schnock qui me l'a loué a claqué. Et maintenant, ces bons à rien de gosses veulent la récupérer. Alors on se tire. De toute façon, c'est plus marrant de vivre sur la route. Des arbres, je continue à me dire. Une forêt, des sous-bois, comme dans la ferme de ma mère. Et après ça, les larmes m'ont aveuglée. Avec le bandeau, je n'ai pas pu voir le trajet que nous avons fait autour de la maison jusqu'à son poids lourd. Il a fallu qu'il m'aide à me hisser sur le large marchepied et ensuite il m'a agrippé le bras quand j'ai buté sur le siège conducteur. Je n'avais jamais vu l'intérieur d'un semi-remorque. Je n'y connaissais rien. Les camions n'étaient pour moi que des véhicules que j'avais aperçus sur l'autoroute et qui transportaient des marchandises dans une direction ou une autre. Aucun doute que j'avais consacré plus de temps et d'attention à mes cheveux. Mais là, le faux Everett me faisait fièrement l'article de sa cabine avec toit surélevé, son petit nid ambulant. Tout équipé. Couchette, machine à café et bien sûr lecteur de DVD portatif pour ses loisirs. Tout en jacassant, il me guidait pour contourner son siège de pilotage. J'ai senti de la moquette sous mes pieds. Plus épaisse et de meilleure qualité que dans le sous-sol. L'odeur aussi était plus agréable. Malgré des relents de nourriture trop grasse, c'était le parfum du pain qui dominait. Comme si le camion avait été nettoyé récemment. Lui au moins méritait cet effort. Quand j'ai entendu un loquet grincer, je n'ai pas compris tout de suite. Puis le faux Everett m'a donné une poussée et j'ai basculé vers l'avant, comme si je dégringolais d'une ou deux marches. Avant que je ne retrouve mes esprits, sa main appuyait sur mon épaule pour m'obliger à m'allonger. J'ai compris trop tard que j'étais maintenant debout sur un plancher en bois et que cette odeur de pain... Voilà comment je me suis de nouveau retrouvée enfermée dans une caisse en forme de cercueil, tout habillée cette fois-ci, avec un bandeau sur les yeux. « Comment tu t'appelles ? » m'a-t-il demandé debout au-dessus de moi. « Molly, » ai-je murmuré, trop démoralisée, trop déconfite pour autre chose. « Et moi ? » ?»« Everett ?»« Qui je suis ?»«
Qui vous voulez ?»«
Je suis ton oncle. Oncle Everett, d'où est-ce que tu viens ?»«
De Floride ?» ai-je tenté.
« Avec un accent pareil, ça m'étonnerait. On va dire que ta maman t'a élevé dans le Nord, mais que maintenant tu vis avec moi. »
Je n'ai rien répondu. Il arriverait à ses fins, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça pouvait me faire? Peut-être que j'étais réellement devenue Molly, parce que, en tout cas, la fille que j'avais été.
Chargement, livraison, tu es dans la caisse, m'a-t-il expliqué.
Je n'ai pas réagi, plus désorientée que rebelle. De toute façon, j'étais enfermée dans une caisse avec un bandeau. Quelle importance!
Il a violemment tiré sur une mèche des cheveux cisaillés par ses soins. J'ai enfin hoché la tête, ne serait-ce que pour lui montrer que j'écoutais. Les aires de repos, les relais routiers, tu es dans la caisse.
Nouveau hochement de tête.
Le reste du temps.
Il a laissé sa phrase en suspens, a paru hésiter.
Sois sage, joue ta carte intelligemment et tu pourras peut-être sortir un peu. Tu me tiendras compagnie.
J'ai froncé les sourcils, pas certaine de comprendre. Était-il en train de dire que je pourrais le rejoindre dans la cabine, m'asseoir sur le siège passager, comme une vraie personne?
Tu seras assise par terre, a-t-il précisé. Personne ne pourra te voir. Peut-être que je t'enlèverai le bandeau, peut-être que non. Mais tu seras dehors. À condition que tu te comportes bien, évidemment. Que tu fasses exactement ce que je dirai.
Il s'est tu, comme s'il attendait. Et j'ai fini par réaliser que je quittais définitivement le sous-sol. Et qu'en guise de récompense ou de punition, je passerai désormais tout mon temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec cet individu. Un homme cruel, ignoble, d'une saleté repoussante, dans son gros camion où il régnait en maître et où il ferait la loi sur l'autoroute, avec une esclave sexuelle enchaînée à ses côtés. Par la même occasion, j'ai aussi compris autre chose. S'il m'emmenait, c'était qu'il n'allait pas me tuer. Il avait pourtant souvent juré de le faire, en m'expliquant qu'il balancerait mon cadavre dans le canal le plus proche où les alligators feraient en sorte que ma mère ne me revoie jamais. Everett n'allait pas me tuer. Il allait me garder. Dans un coin de ma tête, je me suis demandé si ça voulait dire qu'il s'était en quelque sorte attaché à moi. Et si du coup, j'étais censée être attachée à lui. Everett m'a plaqué une main sur le visage et m'a forcée à rentrer la tête dans la caisse. J'ai repris ma position, le cerveau en ébullition et le couvercle s'est refermé. Cliquetis de cadenas, fin de mes quelques instants de liberté. J'étais redevenue une fille dans un cercueil. Sauf que maintenant, je voyageais. Il aimait bien parler en conduisant. Se plaindre, pour être exact. Du prix de l'essence, du connard dans la Honda Civic qui venait de lui adresser un doigt d'honneur. Des abrutis du quai de chargement qui lui avaient fait perdre 2 heures parce qu'ils étaient en sous-effectif. Et résultat, il n'allait même pas pouvoir prendre sa pause déjeuner. À la belle époque, disait-il en râlant, un chauffeur malin pouvait trafiquer son livret de contrôle et conduire au-delà de la limite. Mais c'était fini. Maintenant, tout était surveillé par électronique. Obligation fédérale par-ci, obligation fédérale par-là. Big Brother vous regarde. Bienvenue dans la vie d'un transporteur longue distance, me disait-il. Travailler pour des connards en traversant un pays entier peuplé de connards. Au début, chaque fois que le moteur démarrait, je sursautais. Chaque fois que le camion tressautait sur une route défoncée, j'ouvrais de grands yeux, prise de nausée. Après tout ce temps passé en solitaire dans le sous-sol, l'odeur du diesel, le rugissement des pistons, le violent ronflement de la bête, c'était presque trop. Et pourtant, de même que j'avais appris à dompter l'ennui dévorant du sous-sol, je me suis adaptée. J'ai détendu mes épaules pour absorber les soubresauts. Je me suis laissée pénétrer par les grondements et le bruit de roulement incessant. Et petit à petit, j'ai appris à discerner les nuances des différents types de chaussées, la vitesse de croisière sur autoroute, le gros effort mécanique des lentes montées. La vie sur la route. Ou, à en croire les perpétuelles récriminations d'Everett, il avait le droit de conduire 11 heures sur 14 avant de prendre un repos obligatoire de 10 heures. Ensuite, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, disons 11 heures du soir, 2 heures ou 4 heures du matin, il reprenait le volant. Et fidèle à sa parole, lorsque nous n'étions pas dans une zone de chargement, sur une aire de repos ou dans le tohu-bohu de la civilisation, il se rangeait sur le bas-côté et me laissait sortir. Je pouvais uriner, accroupi derrière des buissons plutôt que mariner dans mes excréments. Je mangeais des Egg McMuffins au petit-déjeuner, des sandwichs Subway au déjeuner et du poulet frit au dîner. « Les inconvénients du métier », me disait Everett en me tendant un énième sac de fast-food, tout en tapotant sa panse monstrueuse d'un air gêné. Après le dîner venaient inévitablement d'autres exigences. Il avait conduit toute la journée, bien sûr qu'il avait besoin de relâcher la pression. Et il avait son petit nid d'amour tout près. Est-ce que c'était mieux que d'être dans le sous-sol? Est-ce que ça valait le coup d'être sur la route? Où de temps à autre le bandeau tombait de mes yeux et où je pouvais voir le monde filer à toute allure, images floues où se mêlaient les verts, les bleus et les gris. Tous ces véhicules lancés à fond côte à côte, tous ces conducteurs, un pays entier peuplé de connards, comme disait Everett. Et pourtant, pas un seul ne m'a jamais vu. Everett parlait beaucoup, la plupart du temps pour râler. et parfois il lui arrivait même de pleurer dans son sommeil. C'est comme ça que j'ai fini par apprendre l'existence de Lindy.